Et à ne pas manquer au cours de la prochaine heure, Vincent Destouches sera avec nous. On va revenir sur cette défaite un peu cruelle en fin de match, en fin de semaine à Houston, de l'impact de l'équipe de Rémi Garde. Danny Dubé avec nous dans les prochaines minutes. Gilles Courtois un petit peu plus tard à l'émission. Philippe Marquis qui tire sa révérence du monde du ski acrobatique, bosseur. Une belle photo d'ailleurs avec tous les gars de l'équipe canadienne qui étaient avec lui à Stoneham pour le saluer. Mais d'entrée de jeu, pour amorcer cette heure, on accueille Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Alors je te lisais avec intérêt ce matin dans la presse plus, dans ta chronique, c'est lundi, on jase, à savoir qui est le vrai, le véritable Jonathan Drouin. Drouin qui, effectivement, là, comme j'en parlais avec Mario tout à l'heure, il y a quelque chose quand même d'incompréhensible.
Oui.
C'est qu'il joue un match d'enfer contre les Jets de Winnipeg, puis je t'ai lu avec attention, puis j'avais le sentiment pas mal semblable à celui que tu décris dans ton texte. Et après ça, à part le party contre Détroit, en tout cas, sur la feuille de pointage, il n'est pas là.
Non, c'est un mystère un peu, puis j'écoutais Mario tantôt qui disait que bon, tu sais, lui, il est entraîneur, il s'assoirait avec lui,
oui.
Puis bon, il essaierait d'avoir une conversation pour lui faire prendre conscience de son rôle dans l'équipe, puis qu'il avait son sort entre les mains au niveau du temps de jeu et tout, je trouvais ça intéressant, mais tu te demandes un peu justement, il me semble que Claude Julien a déjà dû essayer quelque chose comme ça, et pourtant, ça donne pas de résultat au niveau de la constance, et c'est ça qui est regrettable, parce que quand il a joué ce match contre les Jets de Winnipeg, Jonathan Drouin, c'est clairement, Mario, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, son meilleur match avec le Canadien.
Ah ben oui.
Il a été dominant du début à la fin. Il a donné le ton à ses coéquipiers. Et là, tu te dis, pourquoi il n'est pas capable de répéter ça? Puis moi, c'est ça, j'ai été impressionné par son jeu. J'ai été impressionné après dans le vestiaire quand il a répondu aux questions des journalistes, la façon dont il s'exprimait, l'espèce de force tranquille qu'il dégageait. Puis là, vraiment, je me suis dit, hey, là, je pense que lui, là, il vient de sortir de sa coquille pour de bon. Là, le virage est pris. L'an dernier, on le sait, c'était pas facile. Puis souviens-toi des propos de Claude Julien après le match, après ce match-là contre Winnipeg. Il y a eu évidemment beaucoup de questions sur le rendement de Jonathan Drouin. Puis j'ai trouvé des réponses très intéressantes. Il a dit tout à coup... écoute, on peut pas vraiment se fier à l'an dernier, parce que l'an dernier, grosso modo, là, je paraphrase un peu ce que Claude Julien a dit, mais il disait, l'an dernier, personne n'a été bon. La saison dernière, personne n'a été bon. C'est difficile dans ce temps-là pour un joueur vraiment de s'élever. Puis je trouve que c'est un très bon point. Et puis là, ben, avec cette performance-là, je suis convaincu que Claude Julien s'attendait aussi à ce que, bon, peut-être pas qu'il répète un match comme celui-là à chaque fois qu'il va mettre les patins sur la patinoire, mais quand même à plus de constance, à ce qu'il soit capable d'avoir un rôle clé pour le Canadien en attaque dans la deuxième moitié de saison.
C'est le gars vers qui on a le plus d'attentes, Philippe.
Oui.
Tu sais, c'est vraiment lui. On a énormément d'attentes. Quand il nous donne un show comme celui qu'il a donné contre Winnipeg, ben là, dans le fond, ce qu'on perçoit, nous, comme message, c'est hey, on a raison d'avoir des attentes là, parce que ça déborde là, ce talent-là. Mais quand on regarde attentivement, bon, par exemple, les sommaires des matchs, il y a quand même 36 matchs dans lesquels il ne figure pas au sommaire d'un match. Ça me fait penser un peu à Pacioretty. Pacioretty était là des matchs qu'il produisait, mais des autres matchs n'étaient pas là. C'est pas le même genre de joueur. Je parle juste de production offensive, de pointe sur le tableau, comme on dit, Philippe.
Oui, c'est ça. Puis Pacioretty en séries éliminatoires, on le sait, là, il n'a jamais été capable de vraiment répondre aux attentes. Alors, on verra si le Canadien participe aux séries, si Jonathan Drouin sera capable de le faire. Mais tu sais, il y a des gens qui aujourd'hui, je disais un peu, comme d'habitude, les commentaires des gens qui m'écrivaient à la suite de mon papier. Puis il y a des gens qui disaient, ouais, mais tu sais, est-ce qu'on lui en demande pas trop à quelque part à Jonathan Drouin? Puis moi, je ne pense pas, Mario. Je pense que, tu sais, la notion de jeune joueur. Tu sais, Claude Julien a dit ça récemment. C'est encore un jeune joueur. Moi, je veux bien, c'est encore un jeune joueur. Mais je trouve que tout à coup, ça commence à avoir ses limites-là. À la fin du mois, Jonathan Drouin fêtera ses 24 ans. Quand il est rendu à 24 ans dans la Ligue nationale, tu commences à passer du statut de jeune joueur à jeune vétéran. Puis là, il y a une différence entre les deux. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'il a dans la Ligue nationale. Il connaît tous les amphithéâtres, il connaît parfaitement la routine du hockeyeur professionnel à ce niveau-là. Tu sais, il pourra pas rester éternellement un jeune joueur. Tout à coup, il faut qu'il assume la place qu'il a dans l'équipe. Puis son salaire, c'est pas un salaire de jeune joueur. Là. C'est pas un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Alors, tout à coup, l'un vient avec l'autre. Puis tu sais, je veux pas dire que parce qu'il gagne autant, il faut qu'il marque autant de buts. On sait tous que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il en reste pas moins que le salaire qu'il touche l'identifie comme un des leaders du Canadien. Il fait plus d'argent que Brendan Gallagher, là, puis c'est en raison de son talent. Alors, il faut qu'à quelque part, il réussisse à livrer les attentes qu'on a en lui. Puis je pense que les gens l'observent de très près, parce que c'est un joueur qu'on aime.
C'est un joueur qui est excitant. Comme on l'a adopté, c'est comme un peu serait notre fils, et on veut toujours que notre fils soit meilleur que les autres. On veut tout le temps qu'il en donne plus que les autres. Non, t'es pas d'accord?
C'est sûr qu'on
en veut toujours une couche de c'est plus, pour voir ses défauts plus que les autres.
Voilà. Puis ce qu'on aime de Jonathan Drouin, c'est qu'il nous reconnecte à quelque part avec les grands joueurs offensifs du Canadien. Puis on n'a pas été gâtés à ce niveau-là dans les dernières années. Il y a eu Kovalev qui avait vraiment une coche en haut des autres, mais il est arrivé à Montréal, il était plus en fin de carrière. Puis à part ça, dans les derniers, faut remonter quand même assez loin dans le temps pour trouver des attaquants dominants, très imaginatifs en attaque, capables d'un match comme celui que Jonathan Drouin a joué contre Winnipeg. Alors, quand il est capable de nous offrir des performances comme celle-là, puis on aimerait simplement que ce soit plus souvent. Parce qu'en plus, non seulement il est bon, mais il est excitant. Puis moi, voir jouer Jonathan Drouin, c'est un plaisir. Il y a deux joueurs chez le Canadien à l'heure actuelle que j'aime tout le temps voir jouer. C'est lui et Jesperi Kotkaniemi. Alors, pourquoi? Parce que leurs habiletés sont supérieures à la moyenne. Puis Gallagher est super bon, puis très agressif, puis Domi également, mais c'est pas la même chose, à mon avis.
Permets-moi quand même, parce que je partage ton opinion en ce sens qu'on en veut plus. C'est sûr et certain, on est exigeant. Maintenant, est-ce qu'on exige trop en écho aux commentaires d'un de tes lecteurs? À ça, je pense qu'on peut répondre de façon un petit peu plus nuancée, en tout cas en ce qui me concerne, parce que si tu compares la situation de Drouin dans l'alignement du Canadien versus la situation de d'autres joueurs offensifs ailleurs dans la Ligue. Tu sais, je ferai pas le tour de la Ligue. Prends juste, par exemple, l'alignement de... Mettons qu'il joue à Pittsburgh. T'as Crosby qui a 88 points. Malkin en a 68. Kessel en a 68. Gonzalez en a 65. On s'entend que ça reposerait pas rien que sur Jonathan Drouin. Va-t'en à Calgary, qui est somme toute une jeune équipe dont on dit qu'elle est en léthargie, là. Ils viennent de gagner un gros match, là, contre Vegas. Mais, on dit, oh, c'est comme la machine des Flames en léthargie. T'as Gaudreau à 84. T'as Monahan à 72. T'as Lindholm à 72. T'as Ketchuk à 67. T'as Giordano à 63. Tu sais, Jonathan, là, comme tout, on n'est pas dans le même... Tu comprends? Il y a 50 points. Fait il y a personne pour se cacher. Puis le gars dont on attend de tout, c'est lui. Domi est en panne sèche. Personne n'en parle. Le seul party qui s'est payé, c'est contre Détroit. Bon, Tatar, il nous donne ce qu'il peut, mais Tatar, c'est pas un joueur là, de la crème. Il nous surprend positivement. Ensuite, Adano. Fait que oui, je pense qu'on attend trop de lui, mais... On a raison de le faire, il peut en donner plus, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu, puis je vais même te dire que je pense que les espoirs, c'est peut-être un peu ça la réalité du marché montréalais, c'est que les espoirs suscités par l'équipe font en sorte qu'on attend énormément de l'équipe également, et le fait que, par exemple, il pourrait échapper une place en série, là, tel que le classement de ce matin nous l'indique, ça fait réagir des gens avec douleur, là. Mais donc, je pense que c'est un peu la même façon, on traite un peu de Drouin comme on traite l'équipe, c'est-à-dire on veut tout de lui, on veut tout de cette équipe-là, mais je suis pas sûr, tu sais, gars, ils vont nous donner ce qu'ils peuvent, mais...
Très bon point, Mario, puis c'est sûr que l'environnement, les joueurs autour de lui, ça a un impact majeur, c'est sûr, puis peut-être qu'un jour, il pourra former une paire exceptionnelle avec Kotkaniemi ou un autre, souhaitons-le, puis ça, j'embarque là-dedans, mais d'un autre côté, il y a la brutalité des chiffres. Un seul match où il a récolté des points dans ses 14 derniers. Ça fait mal parce que personne ne lui demande d'avoir 2 points par match. Là. Personne ne lui demande d'être le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Mais il faut quand même que quand une équipe... tantôt, tu citais les statistiques offensives du Canadien. Je pense que tu mentionnais que la moyenne de buts par match depuis un certain nombre de rencontres était inférieure à 3. À 2 points quelque chose.
Si tu élimines le party contre Détroit, là, c'est à 2, moi t'as retrouvé mes notes, à 2,37 de mémoire. Bon, puis si tu inclus le party, c'est à 2,7.
Bon, alors dans les deux cas, là, on est en bas de 3. Alors, c'est sûr que le Canadien nous a habitués à mieux cette saison. Et je pense que c'est ça, là, qu'un gars comme Drouin, il doit être une partie de la solution pour ramener la moyenne plus haute que le chiffre que tu as mentionné.
Mettons que le Kanemi, t'es un joueur de, je sais pas, dans 2 ans, t'es un producteur de... C'est-tu farfelu de penser qu'il pourrait produire 75 points dans 2 ans?
Non.
mettons 75 points dans deux ans. C'est sûr que ça va avoir un effet sur du monde autour de lui, là.
Oui.
Qui va jouer à gauche? Tu droit, c'est un autre. Ben, le gars, il va avoir plus de points qu'il y en a là avec, tu sais, il va avoir un effet de, comme tu le dis souvent,
ouais, d'élimination effet
vers le haut, ouais, un effet d'entraînement vers le haut. Et là, ben, c'est pas là. T'as Domi qui a un début de saison surprise, mais qui ressemble à Galchenyuk dans son individualisme actuellement. Est-ce que c'est faute d'options dans ses jeux? Mais, tu sais, c'est sûr que les réflecteurs sont sur Drouin, mais la baisse de régime
est un peu collective.
Est un peu collective.
Oui, parce que là, tu sais, en défensive aussi, il y a des problèmes là. Tantôt, t'as parlé de chez Weber avec Mario, puis bon, lui aussi a des ennuis. Puis lui, c'est le meilleur joueur de défense de l'équipe là. Puis dans le moment, ben c'est très dur pour lui.
Et il y a un autre aspect aussi qu'on ne connaît pas, c'est la psychologie d'un joueur aussi, là. Mm. Tu sais, Subban a sa psychologie, a sa façon de fonctionner, Drouin a sa façon de fonctionner. Les joueurs qui ont des talents spéciaux, particuliers, des fois, je sais pas. Regarde, puis j'ai pas d'idée à développer autour de ça. Tu sais, tu dis, Claude Julien doit lui avoir parlé. Donc, comment ça se fait qu'exemple, s'il y a parlé, que ça n'a pas généré les résultats qu'on attend. Puis je suis convaincu que Dominique Ducharme, qui l'a dirigé à Halifax, il a parlé, puis c'est peut-être pas... Son embauche est peut-être pas étrangère au fait que Drouin a quand même déçu ceux qui l'ont acquis dans la transaction de Sergachev l'an passé. Puis on dit, ben il faut valoriser notre investissement. Mmh. On va amener Ducharme en renfort. Il y a une façon de le prendre, ce gars-là. J'ai entendu ça, mettons, Philippe. Tu sais que,
ouais.
Bon, ben là... Tu sais, à un moment donné, quand tu te questionnes, c'est la façon de prendre quelqu'un, puis ça prend, je sais pas. Quand je pense
c'est
tout haut, comme
que,
on dit.
C'est sûr que gérer une vedette, parce que Jonathan Drouin, c'est une vedette, là, il y a absolument aucun doute là-dessus. Gérer une vedette, c'est plus compliqué. Puis gérer des joueurs créatifs, c'est souvent plus compliqué que simplement un joueur qui fonce dans son corridor, puis tout ça. C'est souvent deux types de personnalités. Alors, ça demande un peu de doigté, puis ça demande, il y a absolument aucun doute là-dessus.
Un mot sur une vedette, assurément, oui. Et je pense que là, on peut le consacrer vedette, mais vedette en devenir et vedette internationale, c'est un rayonnement global qui attend la sensation Félix Auger-Aliassime.
Ouais, moi là, ce qu'il a accompli en battant Stefano Tsitsipas en deuxième ronde à Indian Wells samedi, je trouve ça extraordinaire, Mario, aucun doute là-dessus, il est encore tellement jeune, il est né en 2000, et là, il est rendu que, bon, il s'impose parmi les meilleurs joueurs au monde. Il va encore monter au classement. Il va peut-être atteindre pas loin du 50e rang après Indian Wells. Et aller battre Tsitsipas, qui est également un très jeune joueur, qui a 20 ans. Mais Tsitsipas a déjà un peu plus d'expérience. Il s'est rendu en demi-finale aux internationaux d'Australie. Il a battu Roger Federer. Donc, c'est vraiment là, de quoi asseoir une notoriété et une confiance en lui. Et là, de voir que Félix Auger-Aliassime arrive et le bat en 2-7, j'ai trouvé ça fantastique. Puis ça me rappelait les propos de Louis Borfiga il y a deux ans à la Coupe Rogers, la fameuse année de Denis Shapovalov, là, quand il s'est rendu.
Ça fait longtemps qu'il voit venir, lui.
Oui, puis qu'il disait, je me souviens, tout à coup, j'avais une conversation avec Louis Borfiga, puis il disait, attendez, vous allez voir, là, Félix, il va vous surprendre aussi un jour. Puis il avait tellement raison. Et voir ce qu'il accomplit aujourd'hui, il est en train de devenir, je pense, un jeune homme qu'on surveille de plus en plus sur le circuit de l'ATP. Si vous allez sur le site, les gens vont sur le site de l'ATP, il y a d'ailleurs une petite vidéo qui a été tournée, qui le met en valeur, lui et sa famille, dans la maison qu'ils ont louée pour la durée du tournoi de Indian Wells. C'est super sympathique, mais tu vois là qu'on commence au niveau de l'ATP à faire la promotion de Félix Auger-Aliassime. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors aujourd'hui, il atteint la... Oui, tout à fait. Il atteint la troisième ronde. Il va jouer tantôt. Là, il joue très bientôt, là, probablement d'ici une heure ou à peu près. Et il affronte un Japonais qui s'appelle Nishioka Yoshihito, un gars qui est 74e au monde, un gars de 23 ans. Bon, c'est pas un joueur super connu, mais lui aussi a un beau parcours jusqu'à maintenant. Alors, ça devrait être un match assez intéressant à suivre. Alors, de voir Félix Auger-Aliassime de briller comme ça et je pense, de dépasser les attentes qu'on pouvait avoir là, cette saison-ci
en 2019.
Oui, aucun doute là-dessus. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis je te dis, là, je pense à ça, puis s'il continue à progresser comme ça, puis s'il accomplit toutes les merveilles qu'il annonce, il y a une chance, il existe une chance là, que... Oublions peut-être, c'est difficile de faire des comparaisons, mais il va devenir potentiellement un des plus grands athlètes québécois. Il y a ce potentiel-là.
Ben oui, ben oui.
Et un des plus grands athlètes de l'histoire est connu internationalement. C'est sûr que c'est très tôt. Je dis pas que c'est fait puis qu'on est assuré de ça. Loin de là. Mais je dis qu'il a très nettement ce potentiel-là. Et de pouvoir le surveiller au cours de cette saison et des années prochaines, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le fun de le voir jouer et de voir son parcours. Je pense qu'il va avoir une influence incroyable aussi sur la pratique du tennis ici. Ça ne fait que commencer, exactement.
Absolument.
T'as entièrement raison.
Philippe, il faut aller à la pause, mais juste avant, il faut que je te demande, là, le nom du japonais, là, tu pratiquais un petit peu en onde avant? Ça, il est sorti.
Non, mais je l'ai devant moi, par exemple.
Ah,
j'ai lu.
Ouais, je trouve qu'il est sorti pas mal naturel. Je dis, tabarouette, Philippe m'impressionne. Là. Je te dis, hey, salut mon homme.
Salut Mario.
On se reparle plus tard cette semaine. On revient avec Danny Dubé.